et bienvenue pour ce nouveau direct Gare Nationale depuis le stade Pierre Mauroy à Lille pour le salon Your Future, donc qui se tient du vendredi 26 au samedi 27 janvier dans l'enceinte de ce stade. Donc ce salon rassemble des lycéens, étudiants, des jeunes diplômés, des écoles, des entreprises pendant deux jours pour trouver sa formation, se faire coacher, rencontrer son premier réseau professionnel. Et figurez-vous que la Gare Nationale est présente pendant les deux jours du salon pour informer et renseigner les visiteurs qui seraient intéressés par la Gare Nationale. Et donc, l'occasion est toute trouvée pour faire un épisode spécial de notre direct Gare Nationale sur la réserve et les jeunes, sur pourquoi la réserve, comment s'engager. Donc c'est ce qu'on va vous proposer tout au long de ce direct. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions dans le chat, auxquelles on se fera un plaisir de répondre. Au salon Your Future, au stade Pierre Mauroy à Lille, pendant deux jours. Donc, pourquoi c'était important pour la Gare Nationale d'être présent sur ce salon ?
C'était important, Louis, d'être présent sur ce salon parce que les jeunes ici viennent pour avoir des informations sur leur avenir professionnel. Et la réserve fait partie de leur avenir professionnel. On sait tous qu'un réserviste, c'est un militaire à temps partiel qui, en parallèle d'une activité professionnelle, se met au service de la nation. Et donc, il était naturel que nous soyons présents pour leur proposer cette éventualité, cette possibilité, et qu'on les informe. Car je me suis rendu compte, en discutant avec eux, que cette information n'était pas connue, mais que les jeunes étaient prêts à se lancer dans l'aventure à la réserve, en sachant ce qu'elle revêt en termes d'enjeux, pour eux, en termes à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Et j'ai rencontré aussi vraiment des jeunes aujourd'hui, très intéressés par ce qui leur a été dit. Donc je pense que notre présence était indispensable et a pu se confirmer par les entretiens que nous avons.
Ah oui, donc il y a effectivement beaucoup de jeunes qui sont venus voir la Gare Nationale lors de ce salon. Et vous êtes rendu compte que parmi ces jeunes, il y avait quand même une majorité qui connaissait déjà la réserve. Alors, ils ne savaient pas précisément ce que c'était, mais en fait quand on disait réserviste, ils voyaient ce que c'était, donc que c'était à temps partiel, que c'était rémunéré. Donc il y a déjà un bon niveau de connaissance en fait.
C'est assez surprenant, mais je te rejoins. Je me suis rendu compte en discutant avec les jeunes que certains avaient des professeurs qui étaient engagés dans la réserve. Il y en a un qui m'a parlé de Saumur, qui m'a dit « Je sais que mon professeur est cadre à Saumur, commandant de réserve. » Et je leur ai dit justement « Mais quel regard jetez-vous là-dessus » Ils me disaient tous « On a une forme de respect là-dessus parce qu'on est plutôt surpris de voir qu'en parallèle de son activité professionnelle, il consacre du temps et d'énergie à autre chose. »
Alors, vous avez aussi aujourd'hui reçu beaucoup de lycéens, plutôt des terminales, qui effectivement vont passer leur bac et s'interrogent sur la suite à donner à leurs études, à leur carrière. Le fait de se dire, bah, tiens, pendant l'été, finalement, entre la terminale et la suite, bah, le fait de pouvoir faire une formation initiale de réserviste, rémunérée, ça les intéressait. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, d'ailleurs, peut-être à ceux qui nous regardent, qui regardent ce direct?
Alors, ce qu'on peut leur dire, c'est aller sur le site de la Gare Nationale. Connectez-vous sur la présentation de toutes les composantes. Ensuite, faites une démarche de proposition pour rejoindre la réserve. C'est pour tous les étudiants qui sont en études, vous aurez des possibilités de former pendant les vacances scolaires et donc de choisir une période de formation. Et ensuite, vous avez jusqu'à au moment de signer votre engagement à servir dans la réserve, vous avez la possibilité de dire « oui, ça me plaît, je confirme » ou alors « je suis moins intéressé, finalement, ça ne correspond pas ». Mais lancez-vous dans cette grande aventure. La jeunesse, c'est l'âge de tous les défis, c'est l'âge de tous les engagements, c'est l'âge de tous les possibles. N'hésitez pas, foncez. Et vous récolterez ce que vous avez semé.
Tout ça, vous l'avez sur le site internet de la Gare Nationale. Et justement, à l'occasion donc, de ce salon Your Future, hein, je vous répète, nous sommes actuellement à Lille, elle vous a donné une conférence.
Oui, ce matin, on voulait en fait sensibiliser les jeunes au fait que pour tous ceux qui ont envie de s'engager au bénéfice de la nation, d'être des acteurs de leur avenir, d'être des gens engagés, il existait cette possibilité de rejoindre la réserve. Les jeunes ont été présents ce matin, ont posé des questions d'ailleurs très pertinentes, l'animateur aussi, sur l'ensemble du périmètre réserve. Et je dois avouer que ce que j'ai noté dans le regard bien souvent, c'est une forme d'intérêt réel. Et surtout, quelquefois pour certains d'entre eux, l'envie d'aller consulter et dans la foulée faire la démarche. Donc venir au contact des jeunes, c'est ne jamais être déçu, c'est au contraire ouvrir des opportunités et nous sommes vraiment satisfaits d'être présents.
Et bien justement mon colonel, donc la suite de ce direct, ça va être donc des extraits choisis de la conférence que vous avez donnée. On espère que en tout cas ça vous plaira, ça vous donnera envie d'aller plus loin, pourquoi pas de vous engager en tant que réserviste et de rejoindre la garde nationale. Et puis nous on se retrouvera pour un prochain direct garde nationale, c'est le rendez-vous mensuel de la garde nationale, peut-être dans un autre endroit insolite, là c'était le stade Pierre Mauroy, et pour la suite, on ne sait pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on vous dira tout. À très vite.
À bientôt.
Merci beaucoup d'être avec nous tout au long de cette journée ici au stade Décathlon Arena Pierre Mauroy à Lille dans le cadre de ce salon. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Bonjour lieutenant-colonel Poujol.
Bonjour.
Chef du bureau communication et notoriété du secrétariat général de la garde nationale. Et avec vous, on va parler, puisque c'est vrai que il y a quelques instants, dans une autre conférence, on parlait de la manière de s'engager pour préserver la planète, d'avoir un métier qui a du sens. Mais il y a d'autres types d'engagements qui sont possibles, notamment celui de l'engagement dans le cadre de réserve. Alors, on va tout savoir, notamment à la garde nationale, ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'un réserviste, est-ce qu'il est payé ou pas payé, et puis surtout, comment on peut contribuer à finalement au bien du pays. D'abord, en quelques mots, un petit peu, est-ce que vous pouvez nous présenter la garde nationale et comment ça s'insère dans le dispositif de sécurité nationale?
Alors, la garde nationale a été créée en octobre 2016 après les attentats de 2015 et 2016. Rappelez-vous au Bataclan, rappelez-vous aussi à Nice à l'occasion du 14 juillet. Et donc, si on se rappelle l'époque, un émoi national important, des gens et notamment des jeunes qui disent le pays est menacé, j'ai envie de contribuer à traverser cette crise. Et donc, du coup, devant l'émoi, le président de la République, François Hollande, dit il faut créer quelque chose, on va créer la garde nationale. Donc, la garde nationale, elle naît de cette réaction, de cette volonté, de cette vague d'émotion des Français de dire je veux me mettre à disposition du pays parce que le pays a besoin de moi. Donc, c'est un acte de volontariat fort. Et la garde nationale naît à ce moment-là. Elle regroupe aujourd'hui 76 000 réservistes qui sont répartis autour de deux ministères, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées. Et elle est structurée autour, j'y reviendrai tout à l'heure, de composantes. Elle regroupe des gens, donc des jeunes. Alors, 30% environ des réservistes sont des jeunes de votre âge, entre 17, 18 et jusqu'à 30 ans, 35 ans. 30% de gens qui ont entre 35 et 50 ans. Et puis 30% de gens qui ont plus de 50 ans. Donc règle des trois tiers, vous êtes dans le premier tiers. On y trouve 21% de jeunes femmes, donc un réserviste sur cinq est une jeune femme, et le reste, bien évidemment, des jeunes hommes. Cette garde nationale, elle est là pour assurer, comme je disais tout à l'heure, la protection des Français par des missions, dont qu'on précisera tout à l'heure, par des missions qui visent à tranquilliser ou à apporter aux Français un sentiment de sécurité, parce qu'on sait que parmi nos citoyens, il y a des jeunes qui décident en parallèle de leurs études, eh bien, tout simplement d'apporter leur contribution à la vie de la nation, en disant on est là pour assurer votre protection. Donc ça, si vous voulez, c'est important. Mais on peut être aussi jeunes salariés. Il y a parmi nous des jeunes salariés, donc des jeunes salariés du privé ou du public, qui peuvent très bien décider de rejoindre la réserve. Et puis on a des gens qui choisissent de rentrer dans la réserve beaucoup plus tard. Ils sont formés, ils ont une formation technique, et on va les recruter en tant que spécialistes sur la base de leur diplôme, leur capacité, en disant on vous prend parce qu'on a un besoin spécifique. Alors tout à l'heure, j'entendais parler de cyberdéfense, ça peut être le cas. Ça peut être le cas des métiers de la logistique, des métiers de l'alimentation, du bâtiment, de la santé. Donc des secteurs qui sont des secteurs spécifiques qui concourent, quand on rencontre une crise, à une action particulière. Voilà. Je dirais en plus que aujourd'hui, on a besoin de réservistes, d'autant plus qu'on est dans une logique de doublement de nos réserves. Donc aujourd'hui, si vous voulez, nous avons 80 000 réservistes qui sont répartis entre le ministère de l'Intérieur, la police et la gendarmerie, grosso modo environ un peu moins de 40 000, et pour les forces armées, du côté du ministère des armées, donc l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, le service de santé des armées, plus d'autres services, qui représentent aussi 40 000 personnes. Donc nous sommes aujourd'hui 80 000 à assurer quotidiennement des missions au bénéfice du pays. Si je vous prends la date d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 7 000 réservistes qui sont déployés sur le terrain et qui remplissent des missions au bénéfice du pays, au bénéfice de votre protection, de votre tranquillité.
Ça peut être quoi comme mission là en ce moment, les réservistes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a du plan Vigipirate par exemple?
Alors, il y a du Sentinelle effectivement, c'est-à-dire de la présence sur le terrain, ça peut être dans le cadre de la gendarmerie, des missions de contrôle au bord de la route, ça peut être de la lutte antiterroriste, ça peut être des missions de présence, de sécurisation de lieux importants, privés, publics. Bref, c'est tout ce qui assure en termes potentiels, on va dire, pas d'attaque, mais qui ferait l'objet d'actions particulières, eh bien, d'être en mesure de protéger ces endroits-là. Voilà. Il y a aussi, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, des missions spécialistes, parce que vous avez les uns les autres des formations spécialistes. On prenait le cyberdéfense, on a besoin de gens qui sont capables de faire face à des hackers. Vous avez vu que des services publics, des services ministériels sont quelquefois attaqués par des hackers venant de toutes parties du monde. Eh bien, l'idée, c'est de pouvoir se doter de moyens humains qui puissent faire face à ces situations-là. Voilà, donc vous voyez que c'est très très large, très très large.
Qu'on comprenne bien ce statut de réserviste, là vous n'êtes pas en train de dire aux jeunes qui sont présents dans la salle, vous allez travailler à temps plein, 35-40 heures pour l'armée, c'est quelque chose qu'on conjugue avec sa vie professionnelle, on est par exemple, boulanger, et en même temps on peut être réserviste dans la garde nationale.
Tout à fait, si j'avais une définition à vous donner du réserviste, je dirais c'est un militaire à temps partiel quand il est dans les armées, ou c'est un fonctionnaire de police à temps partiel, c'est-à-dire que vous avez une vie principale, votre vie principale, vous êtes étudiant, vous avez 17 ans à 25 ans, ou vous êtes jeune salarié, ou vous êtes salarié confirmé. Eh bien, vous dites sur mon temps personnel, je vais pouvoir accorder un certain nombre de jours à la réserve dans l'année. La moyenne est à 18,7 par réserviste. Ça peut monter jusqu'à 30, 40, quelquefois beaucoup plus, dans la limite de 210 jours. Mais ça peut descendre aussi jusqu'à 10 au minimum. Donc, chacun peut faire ce choix-là. Il y a deux possibilités. Soit votre employeur ou votre directeur d'établissement a signé une convention avec la réserve. Et à ce moment-là, vous le faites dans un cadre de reconnaissance, parce que votre employeur souhaite mettre en avant le fait qu'il aide le pays par, on va dire, un accord à laisser passer ses salariés ou ses étudiants à faire de la réserve, ou alors votre entreprise, votre école n'a pas signé ça, et c'est un titre personnel que vous le faites. Donc à ce moment-là, vous le faites pendant vos jours de congé. Et, bonne nouvelle, vous êtes rémunéré pour ça.
C'était ma question, justement. Voilà, combien on est rémunéré ?
Alors, la rémunération d'entrée, elle est défiscalisée. Donc pour vous, ça veut dire que vous ne payez pas d'impôt dessus. Donc quand l'État vous donne cet argent-là, vous le recevez, mais vous ne payez pas d'impôt. Ça va de 50 euros par jour de présence pour un soldat jusqu'à, grosso modo, 125 euros par jour pour un colonel.
Et comment on a les différents grades? C'est une évolution? On peut directement commencer
colonel? C'est une évolution. Quand on est jeune et qu'on a 17 ans, bien évidemment, on va commencer par les premiers grades, les premières responsabilités. Quand on rentre, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la réserve, quand on rentre à 35, 40, 50 ans, qu'on a déjà une expérience, eh bien, on va vous recevoir en tant que réserviste spécialiste dans un domaine donné, en tenant compte de votre ancienneté. Je prends un cas spécifique, quelqu'un qui a 40 ans, ça fait 25 ans qu'il travaille dans le cyber, il est ingénieur informatique, il est chef de projet, il est manager, il a l'habitude de gérer 30 à 40 personnes, ou alors il travaille dans la presse, il est manager aussi, il est rédacteur en chef, ou alors il est adjoint du rédacteur en chef, il a l'habitude de manager des équipes, et eh bien on va le prendre sur sa compétence, ses domaines de compétences, sur justement ce temps d'expérience, et on va lui dire, on te recrute directement comme capitaine, voire commandant, voire lieutenant-colonel, voire colonel. Mais lui, c'est parce qu'il est recruté en cours de carrière. Le jeune qui commence, et la réserve, ça commence dès l'âge de 17 ans. 17 ans. Donc tous ceux qui sont là, vous êtes pratiquement tous concernés. De ce que j'ai entendu, il n'y en a pas un qui est en dessous de 17 ans. Jusqu'à l'âge de, vous avez une idée de ce que ça représente? Jusqu'à quel âge on peut servir dans la réserve? Combien? C'est pas mal. On en a discuté un peu tout à l'heure, mais c'est presque ça, c'est 72 ans. Autrement dit, c'est une activité que vous pouvez mener dès à présent très jeune et vous pouvez y rester toute votre vie.
Donc on peut être retraité réserviste?
Vous pouvez être retraité réserviste, tout à fait.
Il y a un nombre de jours maximum ou on peut se faire un bon salaire?
Alors il y a un nombre de jours maximum, c'est 210. 210 par an.
Par an, bah c'est quasiment le contrat cadre, c'est 220 jours le contrat cadre.
Tout à fait. Donc 210. Ça, c'est le maximum et le minimum, c'est 10 jours par an.
C'est-à-dire qu'on peut gagner, si on est à 100 euros, pardon, je suis très pécunier, on se fait 22 000 net d'impôts.
Voilà.
Ah, c'est bien.
Voilà. Bon, mais ça c'est réservé pour les plus anciens, ceux qui ont un niveau de compétence qui est... Mais derrière, si vous voulez, et si vous êtes réserviste, figurez-vous que vous pouvez avoir d'autres avantages. Si vous êtes jeune salarié, votre entreprise peut continuer, en signant cette convention, à vous payer. Donc là, l'entreprise vous dit, tu rentres chez moi, tu vas travailler, mais je t'autorise à pouvoir prendre 20 ou 30 jours dans la réserve par an, pendant lesquels je décide de continuer à te payer, et l'armée va te payer. Donc pour toi, c'est intéressant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça, l'entreprise ? Pourquoi le chef d'établissement ou l'entreprise va faire ça ? Ils ne sont pas qu'humanistes. C'est parce qu'ils peuvent aussi déduire une partie de ce qu'ils vous payent de leur impôt. Donc ils ont aussi un intérêt financier à le faire. Mais pour vous, c'est intéressant. Parce que quand une convention a été signée, vous êtes dans un cadre juridique qui vous protège. C'est-à-dire que votre patron, il sait que la réserve existe, il sait que vous partez, il a signé pour ça, c'est facile à faire, il suffit de faire vos jours. Et derrière, vous êtes reconnu au sein de votre entreprise parce que votre patron a décidé de dire « Moi, je soutiens la réserve. J'ai une action qui met en valeur la réserve. » Donc, c'est tout bénéfice pour lui, c'est tout bénéfice pour vous. Et en même temps, vous, qu'est-ce que vous y trouvez à titre personnel ? Et ça, c'est important. Eh bien, vous allez grandir dans la fonction. Je pense à tous les jeunes qui sont là, à partir de 17 ans. On est tous passés par cet âge-là, en particulier moi. Vous avez remarqué que j'ai un peu plus de 17 ans. Mais quand j'avais votre âge, ben, j'étais en école, j'étais en formation. Eh bien, derrière, avoir une activité qui vous permet de sortir de votre environnement académique et qui vous donne des responsabilités de terrain, qui vous apprend à travailler avec les autres, qui vous apprend à prendre confiance en vous, à gérer des situations quelquefois qui sont un peu compliquées, à trouver en vous les ressources morales pour pouvoir toujours être là et dire aux autres ce qu'ils ont à faire, bref, à devenir un manager de situations qui sont quelquefois un peu improvisées et qui vous secouent, ça vous donne une assise, une confiance en vous. Ça vous apporte une satisfaction personnelle tout en vous rendant utile. Ça vous fait grandir. Ça vous donne de la maturité, de la responsabilité. Et surtout, quand on est jeune et qu'on arrive pour postuler pour un premier emploi, quand le recruteur est en face et vous dit « Ah, mais je vois vous faites de la réserve. Expliquez-moi ce que c'est que la réserve. Ah, vous avez tel type de responsabilité. Si jeune, à 22 ans, ça fait déjà 5 ans que vous faites de la réserve. Vous avez fait... Mais écoutez, je vous prends. » Parce que par rapport à celui qui sort d'école et qui n'a pas cette expérience-là, il y a une maturité, il y a une capacité à prendre en compte des situations spécifiques. Moi, ça m'intéresse. Vous avez un parcours particulier. Vous êtes quelqu'un d'engagé dans la vie. Et les gens engagés dans la vie, eh bien, c'est une plus-value.
Quel est le processus qui permet de devenir réserviste au sein de la Garde nationale ? Quels sont les tests à passer ? Est-ce que tout le monde peut y aller ? Est-ce qu'il faut un casier judiciaire vierge ? Voilà, quelles sont les conditions ?
Bon, d'abord, c'est ce qu'on appelle les critères. Donc, pour les critères, vous avez 4 grands critères. Il vous faut être en nationalité française, ne pas avoir un casier judiciaire, avoir envie, bien évidemment, de le devenir, physiquement pouvoir passer une visite médicale qui vous permet de pouvoir... certifier que vous n'avez pas de problème particulier. Vous verrez qu'on en parlera tout à l'heure, on est moins exigeant que par le passé, c'est-à-dire que quand des gens ont des emplois techniques, par exemple, je prends la cyberdéfense, ils sont derrière un ordinateur, on ne va pas leur demander de courir comme des lièvres. Ça ne sert à rien. On va pas leur demander d'avoir des chronos, de monter la corde, etc., etc. Ça ne sert à rien. Donc pour eux, on va avoir une exigence physique qui sera moins importante. Pour toutes les spécialités techniques, on sera beaucoup moins exigeant. En revanche, pour quelqu'un qui veut aller sur le terrain, qui a 17-18 ans, ben on va quand même physiquement s'assurer qu'il n'a pas un souffle-cœur, qu'il n'a pas des difficultés particulières et qu'il peut bien évidemment être recruté à ce sujet. Donc voilà, les critères, ils sont de cet ordre-là. Et une fois qu'on est donc être français, avoir 17 ans au minimum, ne pas avoir de casier judiciaire, avoir envie de servir dans la réserve. Et après, donc, c'est faire acte de candidature. En Europe, vous avez compris que la Garde nationale, c'est 2 ministères, l'intérieur et les armées. Si c'est les armées, c'est le service de santé des armées, la marine, l'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre, le service commissariat, la DGA, la Direction Générale pour l'Armement, bref, il y en a 8. Et si c'est l'intérieur, c'est ou la police ou la gendarmerie. Donc vous faites d'abord ce premier choix-là. Vous dites, OK, moi, je veux choisir une composante. Très bien. Vous allez déposer votre candidature. Vous allez déposer votre candidature sur Internet, avec un lien que je vous indiquerai tout à l'heure. Vous dites, voilà, je m'appelle Robert Patrice. J'ai 22 ans, je suis formé dans tel domaine. Mes compétences, c'est ça, ça, ça. J'ai mon permis de conduire. Je suis mobile dans un rayon de 30 km autour de chez moi. J'habite à côté de Lille. Je suis prêt à entrer dans la réserve et je voudrais servir, grosso modo, 10 ou 20 jours, 20 jours, on va dire, par an. Vous envoyez tout ça et dans la foulée, quelqu'un va vous répondre et va vous dire, vous nous intéressez, votre profil nous intéresse et donc, rejoignez-nous. On va vous donner une convocation pour suivre participer à une visite médicale pour être bien sûr que vous êtes en mesure de pouvoir servir la fonction. Alors si vous êtes jeune, c'est une visite médicale entre guillemets qui prend en compte le fait que vous devez être en bonne santé. Si vous êtes ancien et que vous avez une spécialité particulière, on va être moins exigeant, surtout si la fonction va être de servir dans un bureau. C'est bien évident. Ensuite, vous avez une formation qui va vous être donnée. Formation générale. Donc, si c'est les armées, on appelle ça une formation militaire initiale, à servir dans les réserves, une FMIR. Si c'est pour la gendarmerie et la police, eh bien, pour la gendarmerie, c'est la PMG, une préparation militaire générale. Une fois que vous avez choisi et que vous avez suivi ces deux formations, et que vous êtes qualifié, on va vous faire signer un engagement à servir dans la réserve, comme vous allez signer un plan de recrutement pour un emploi, un premier emploi. Et après, vous serez convoqué 10 jours, 20 jours ou 30 jours. Soit à titre personnel, parce que vous êtes dans une entreprise qui n'a pas signé de convention, soit avec l'accord de votre patron, comme je spécifie tout à l'heure. Et si vous êtes dans un établissement scolaire, eh bien, vous pouvez le faire à titre personnel ou, parce qu'il y a une convention qui a été signée, avec l'accord de votre chef d'établissement. Et quand vous êtes en école, c'est ce que je disais à tous ceux qui sont parmi vous, vous allez avoir un certain nombre de choses à pouvoir négocier parce que vous êtes réserviste. Un exemple, vous êtes en université, vous devez au titre de votre première année faire un stage dans l'entreprise de 30 jours. Eh bien, vous êtes réserviste, vous allez voir le directeur d'établissement, vous dites, voilà, monsieur le directeur, moi je fais de la réserve, je fais 30 jours de réserve cette année. Est-ce que je peux ne pas faire le stage dans l'entreprise? Est-ce que vous pouvez convertir ma période de service en tant que réserviste comme le stage? La chaîne d'établissement peut très bien prendre la responsabilité en disant aucun problème. Il ne fera pas le stage puisqu'il a servi dans la réserve. Donc vous voyez, même en tant qu'étudiant, on est aidé dans le choix qu'on a pu faire quand une convention a été signée.
Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de missions spécifiques, nous donner quelques exemples concrets? On en a parlé un petit peu, mais peut-être des exemples. Voilà, demain, quel est ton prénom? Naofel, demain, il a rejoint la garde nationale, il est réserviste. Tu verrais plus quoi, toi? Plutôt l'armée ou le ministère de l'Intérieur? Plutôt police, gendarmerie ou tout le reste? Tout le reste.
Tout le reste, bon.
Donc voilà.
Rappelle-moi ton prénom.
Naofel.
Naofel. Alors disons que tu as envie, toi tu te dis, moi je me sens à l'aise quand je suis sur le terrain, j'aime aller au contact des gens autour de moi, j'aime être dans un groupe, j'aime être avec les gens et j'aime travailler avec les gens au service d'une mission. À ce moment-là, tu vas choisir, par exemple, l'armée de terre, ou la marine, ou l'armée de l'air. Et tu dis, j'ai toujours aimé la mer, donc pourquoi pas choisir la marine? Ou alors, je suis fasciné par les avions, pourquoi ne pas rejoindre l'armée de l'air? Ou alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir le terrain, c'est être dans la forêt, faire des marches, être au contact des autres, mais sur le terrain, donc l'armée de terre. Tu choisis ça. Et dans la foulée, tu vas te retrouver à faire des missions, ce qu'on appelle chez nous du drill. On va t'apprendre à te déplacer, acte réflexe du combattant, à recevoir des ordres, si tu as une poste de responsabilité, à toi-même transmettre ces ordres. Bref, à t'inscrire dans une mission plus globale de l'unité à laquelle tu appartiens. Donc tu vas être amené, au début tu es soldat, tu reçois les ordres. Au bout de quelques temps, on dit c'est un bon soldat, il percute, il a le sens d'initiative, il est toujours à propos quand il propose des choses, donc on va le faire passer sous-officier. Puis au bout de quelques années, on dit mais c'est un bon sous-officier. Quand il parle, les gens l'écoutent, il est efficace, il répond toujours oui, et surtout en termes de mission, il est irréprochable. On va lui proposer de devenir officier. Et donc tout au long de ta vie, tu vas évoluer dans la réserve au titre de ce que tu apportes, de tes qualités personnelles. Et ça, indépendamment de ta vie professionnelle. Ta vie professionnelle, elle se passe à côté dans le secteur que tu as choisi. Et là, comme je l'ai expliqué, tu es militaire à temps partiel. Donc sur la base du jour que tu donnes, tu as une véritable progression. Tu rentres à 17 ans, tu peux rester là jusqu'à 72 ans.
Petite question, prenons un journaliste, par exemple, de 27 ans, qui a 5 ans d'expérience, qui s'est animé, etc. Il arrive à quel grade?
5 ans d'expérience?
Ouais, 5-6.
5-6, il peut être lieutenant.
Okay.
Voire même s'il est performant et il peut être jeune capitaine.
Il pourrait faire quoi concrètement?
Là, il travaille dans une unité de communication des armées ou de la gendarmerie, de la police. C'est-à-dire que j'ai ici quelqu'un qui est salarié et qui justement est dans le milieu de la presse. Bon, mais forcément, capacité à rédiger des articles, à faire des enquêtes, à mener des interviews, pour faire un travail de communicant au bénéfice d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut le faire en France, sur le territoire national, mais on peut être projeté à l'extérieur. C'est-à-dire que quand les armées françaises sont engagées en Afrique, sont engagées n'importe où dans le monde, au Liban, etc., etc., elle peut partir avec l'unité et remplir cette fonction au sein de l'unité. Donc vous pouvez partir à l'étranger, c'est intéressant, ça permet de renouveler l'expérience. Car, c'est peut-être une question qui allait être évoquée plus tard, un point qui allait être évoqué, on peut très bien servir sur le territoire national, mais on peut être projeté à l'extérieur. quand on participe à des projets, à des opérations extérieures. Gendarmes, même chose, vous pouvez partir à l'extérieur parce qu'on a besoin de gendarmes quand les forces françaises sont engagées à l'extérieur.
Moi, je voulais savoir comment ça fonctionnait si on souhaitait postuler à notre âge, mais qu'on ne savait pas trop dans quelle branche, par exemple. Si vous allez nous conseiller certaines parties ou pas.
Alors, je dirais, normalement, la démarche est totalement dématérialisée et elle se fait sur la base de votre choix. C'est-à-dire, en fait, vous avez le choix entre 10 possibilités. 8 pour le ministère des Armées et 2 pour le ministère de l'Intérieur, donc gendarmerie, police, et puis les autres, rappelez-vous, armée de terre, marine, armée de l'air, d'espace, etc., etc. Donc effectivement, on pourrait vous conseiller, mais grosso modo, vous avez aussi des éléments de réponse à donner. C'est-à-dire que, je répète, ça fait partie de la connaissance de soi. Si j'ai toujours été attiré par ce qui est aérien, il faut que je sois cohérent. L'armée de l'air et de l'espace, qui a des avions qui s'envolent tous les jours en mission, ça, il faut que j'aille de ce côté-là. Si je vis en France sur la côte et que la mer m'a toujours passionné, je sais que j'en ferai pas mon métier parce que je suis pas formé là-dedans. Mais franchissez le pas, prenez la réserve pour la marine en vous disant, moi, avec ce milieu aquatique, j'ai une complicité naturelle, j'y vais. Si vous avez l'envie d'être au plus près de vos concitoyens, c'est-à-dire des Français et des Françaises dans la rue, vous avez la police et la gendarmerie qui sont des forces de contact quotidien avec les Français. Si vous êtes passionné par les opérations extérieures, cette intervention des forces de l'armée de terre qui dépassent nos frontières, qui sont engagées à l'extérieur de nos frontières et qui sont aussi impliquées dans des gestions de crise, pour vous donner des exemples, des réservistes, des missions de réservistes, on en a fait lors de la crise de la Covid. On en a fait en 2017 avec la tempête Irma aux Antilles. On en a fait pendant les feux de forêt en 2023. Pendant les inondations, chaque fois qu'il y a des inondations massives, on fait venir des militaires de l'armée de terre dans les régions qui sont inondées. Rappelez-vous, il y a quelques années, les inondations de la Somme. Et puis, on a un événement majeur qui arrive devant nous, là, qui sont les JO, les Jeux Olympiques 2024. Pour les Jeux Olympiques 2024, on va avoir besoin de 10 à 15 000 militaires. Et parmi eux, des réservistes. Donc, en fait, si vous voulez... Bon, j'ai bien conscience que les JO, c'est pas un temps de crise, c'est un temps exceptionnel, mais qui se vit en termes de gestion comme un événement d'importance. Donc vous aurez la possibilité de participer à des événements qui sont quelquefois denses, de nature nationale, et bien que vous soyez dans la marine, dans l'armée de l'air, vous serez aussi impacté ou touché si on a besoin de votre concours pour participer à cette gestion de crise. Et vous le serez au sein de votre unité de rattachement.
On avait une question aussi. Qui avait une question? Qui a levé la main derrière? L'un de vous deux? Ah.
Est-ce qu'en tant que réserviste, on serait déployé entre réservistes ou on serait comme un supplément dans un groupe déjà?
Les deux possibilités existent. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Dans la gendarmerie, par exemple, il peut y avoir des missions de contrôle au bord de la route. Il peut y avoir des missions sentinelles. Et vous allez vous retrouver avec des professionnels. Parce que n'oubliez pas que le réserviste, sa fonction, c'est de venir un appui aux forces professionnelles. Donc, vous êtes souvent, notamment pour les premières missions, et ça se comprend, en appui direct et encadré avec des professionnels, de façon à vous sécuriser, à vous donner confiance, à vous montrer ce qu'est la mission. Et puis, il existe des unités, dans l'armée de terre, par exemple, ce sont des compagnies, qui, du soldat jusqu'au capitaine, sont que des réservistes. Et quelquefois, la compagnie entière part. Je donne un exemple. Il y a quelques années, la gendarmerie nationale, lors de la crise Irma, justement, aux Antilles, a fait partir une compagnie de réservistes. C'était la première fois. Ils ont dit, voilà, le capitaine réserviste jusqu'au soldat, ils partent tous aux Antilles. Ils vont traiter la tempête Irma pour aider la population locale à nettoyer les rues, à enlever les encombrants, sécuriser les accès, éviter les pillages, etc., etc., parce que la tempête qui est passée a détruit un certain nombre de villes, a détruit un certain nombre de villages, etc., etc., et il faut venir les aider. Ils sont en situation de besoin. Donc les deux situations existent. Soit en étant en appui aux forces professionnelles, dont c'est le métier, soit en étant en unité structurée avec, je répète, du premier au dernier, que des réservistes.
Ouais. Du coup, moi j'ai une question.
Oui.
Vous en doutez, ça concerne un peu la cybersécurité.
Oui.
Pour mon cas, par exemple, je sais que j'ai deux profils. Je peux être quelqu'un de technique et je peux être aussi sur le terrain. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a possibilité de faire un switch, par exemple, si je dois m'engager ?
Oui, complètement. Ça, c'est une possibilité que la réserve vous donne, c'est-à-dire que vous rentrez au titre d'un choix que vous avez effectué. Vous le faites pendant, disons, 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, vous dites, bah, j'ai bien appris, j'ai bien tourné, je comprends comment c'est. Et j'ai envie de me renouveler. Et comme vous avez deux cordes à votre arc, c'est-à-dire vous êtes d'un point de vue technique un spécialiste, donc cyber, et que vous avez commencé par exemple par une initiation de terrain, en voulant savoir ce que c'était qu'être dans l'armée de terre, ou dans la marine, ou dans l'armée de l'air, ce que c'était qu'être sur le terrain. Vous avez commencé sur le terrain, puis au bout de 5 ans, vous dites, ben maintenant j'ai envie d'utiliser mes compétences développées dans le cadre de mon salariat au bénéfice des armées. Eh bien, vous pouvez rester dans la même réserve, c'est-à-dire si vous étiez gendarme, restez gendarme, voire même changer d'armée, dire voilà, maintenant je veux servir dans l'armée de terre, je veux servir dans la gendarmerie, je veux servir dans la police, alors qu'avant j'étais dans une autre réserve, vous pouvez. Donc vous pouvez changer et de domaine et de composante à laquelle vous êtes rattaché. Parce que c'est un... On prend en compte vos attentes et on prend en compte vos évolutions de vie. De même que la question est inverse. Imaginez que vous êtes dans une entreprise, vous avez un poste de généraliste, vous venez faire de la réserve et petit à petit, vous découvrez le monde de la sécurité. Et vous rendez compte que le monde de la sécurité vous intéresse. Vous allez acquérir des compétences grâce à la réserve dans le domaine de la sécurité. Vous revenez auprès de votre employeur, vous dites, écoute, moi, jusqu'à maintenant, j'étais dans la logistique. Eh bien, j'ai envie d'évoluer dans le secteur de la sécurité. Et votre RH vous dit, mais pourquoi tu veux faire ça ? Rappelle-toi, j'ai acquis telle compétence dans la réserve. Du coup, je demande à être réorienté professionnellement. Eh bien, ça marche. Le nombre de réservistes qui nous disent « Moi, il y a quelques années, dans mon entreprise, j'étais dans tel secteur. Grâce à la réserve, j'ai changé mon secteur. » Ça fonctionne aussi. Donc, ça fonctionne dans les deux sens.
Merci beaucoup, lieutenant-colonel Poujalot. On peut vous applaudir très fort. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez un espace, la Garde nationale, dans l'espace entreprise, si les jeunes ont envie de poursuivre les échanges?
Oui, tout à fait. On a un espace ici. Ensuite, vous pouvez nous retrouver sur Internet l'adresse www.garde-nationale.gouv.fr. Donc, vous allez sur Internet, moteur de recherche, vous tapez Garde nationale et vous tombez sur notre site. Et là, vous avez toutes les informations. Et vous avez comment devenir réserviste. Vous pouvez choisir votre compétence et déposer votre dossier de candidature de réserviste directement avec des liens qu'on vous propose. Donc, la démarche est totalement dématérialisée. Vous pouvez le faire. Moi, je vais vous donner un conseil. Faites-le. Vous avez l'âge d'être... Vous êtes tout jeune, vous avez la vie devant vous, enrichissez-vous, dotez-vous de compétences spécifiques. Puis je vais vous dire une chose, je vais en terminer par là, je prends 5 minutes. Si j'avais un mot d'ordre à vous donner, ce serait engagez-vous. Si j'avais une anecdote à vous donner, ce serait celle-là. Vous avez aujourd'hui 25 ans, faisons un bond dans le temps, vous aurez un jour 40 ans. Vous serez peut-être père, mère de famille avec une famille. Une crise majeure arrive et vous avez envie de vous mettre au service de votre pays, parce qu'il vous faut gérer cette crise avec tout le monde. Vous voulez défendre votre famille, votre quartier, votre rue, votre ville, votre pays. Vous arrivez et vous dites, ben, je veux aider. Mais dans la crise, on va vous dire, mais qu'est-ce que tu sais faire ? Ben, je sais rien faire, mais je veux aider. Mais on ne peut pas, là, on gère la crise. On gère avec des gens qui peuvent la gérer, qui savent comment faire. Et là, vous vous sentez, entre guillemets, un peu inutile. Et vous avez 40 ans. Et vous revenez maintenant à votre âge aujourd'hui, vous avez 25 ans. Posez-vous la question de savoir si un jour vous voulez avoir 40 ans en mesure de défendre ce qui vous est le plus cher, votre famille, les vôtres, votre environnement. Et si oui, posez-vous la question de savoir si ce n'est pas maintenant qu'il faut faire répondre à la question en disant oui ou non. Mais une fois que vous avez répondu à la question oui ou non, vous rappelez qu'en ayant eu 40 ans, vous avez réfléchi à la question et vous avez donné une réponse. Moi, je vous engage à vous poser la question. Je suis jeune aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie de m'engager dans la réserve pour plus tard pouvoir aider à gérer des crises, peut-être qui me toucheront de très près ou pas. Mais posez-vous les questions, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se la posent pas parce qu'ils ne sont pas sollicités. Et si j'avais un troisième conseil à vous donner pour terminer, c'est devenez des ambassadeurs. Si vous devenez réserviste, soyez des ambassadeurs autour de vous. Parlez de vos actions de réserve, parlez de quelle façon elles vous font grandir. Elles vous donnent de la maturité, elles vous remplissent de confiance en vous et de capacité à être plus utile aux autres. Parce que si vous êtes comme ça, porteur de ce message-là, vous ferez savoir autour de vous que c'est quelque chose d'important. C'est un véritable choix de vie qui va vous faire grandir. Donc voilà, j'espère vous retrouver dans les prochaines années. Et ce fut un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il a été partagé.
Merci beaucoup. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis en direct ou en replay sur les réseaux sociaux. À très vite pour une nouvelle conférence. Ciao, ciao.
vous êtes à ce jour 77 000 réservistes sur tout le territoire, étudiants, salariés, retraités, agents publics, indépendants. Vous êtes des milliers, femmes et hommes volontaires, à vous être engagés et à donner de votre temps au service de la protection des Français et de notre nation. Véritable incarnation du lien entre le pays, le citoyen et ses forces armées et de sécurité, votre mobilisation témoigne de votre générosité et de votre sens de l'intérêt général. Votre engagement est déterminant pour la cohésion nationale et participe pleinement à la diffusion de l'esprit de défense. Vous contribuez ainsi à protéger nos territoires et nos libertés. Vous défendez la nation, dont vous êtes la force et la fierté. Par votre exemple engagé et volontaire, vous apportez une contribution indispensable à chacune de nos forces armées et de sécurité. Vous suscitez le respect et l'admiration de vos proches, ainsi que de vos concitoyens. Tous ensemble, vous façonnez le paysage de l'engagement collectif et le rendez plus fort. Vous êtes à la fois acteur et vecteur de résilience. Continuez à faire rayonner la garde nationale sur tout le territoire, à susciter des vocations en apportant une réponse concrète au désir d'engagement de la jeunesse. Vous en êtes les meilleurs ambassadeurs.